réalité. Ça fait 25 ans qu'il est à Genève, alors bon, alors je vous dis des bêtises parce que ça fait la moitié. Là, ce dont je vais vous parler fait 12 ans en arrière. Peut-être vous rappelez-vous de cet avion de la Swissair qui avait disparu au large de Halifax, au Canada. Et bien entendu, à Genève, on était touchés alors de plein fouet. C'était les gens qui travaillaient dans les organisations internationales. Et là-dedans, il y avait des gens de toute confession, toute religion, etc. Et nous avions, je venais d'arriver, j'étais à Saint-Pierre depuis quelques mois, et on s'est vite rendu compte qu'il fallait organiser quelque chose, vu l'émotion. Et on a organisé, ça ne s'était jamais fait, une première cérémonie interreligieuse, et j'avais posé comme condition qu'on soit tous sur un pied d'égalité, et que chacun vienne avec une partie de liturgie qui maître. Et donc j'ai rencontré le rabbin Garay, et c'est probablement la première fois que le Kaddish a été chanté dans la cathédrale. Depuis, il a été souvent, on lui demande de venir, alors maintenant c'est régulier, c'est plus la même chose. Mais c'était un moment assez important. Il a fallu cette catastrophe pour qu'on se rende compte qu'on était que des êtres humains en face de mystères qu'on ne pouvait pas expliquer. Et voilà, donc tout ça fait un compagnonnage, oui, dont je rends grâce, parce qu'au fond c'est quand même des privilèges qui nous sont accordés. Je crois.
Voilà. Cherchons ce rencontre exceptionnel et aussi organisé comme tout le temps.
Voilà. Mais ça n'impressionne pas mes amis bouddhistes qui me disent oh, de toute façon, c'est ton karma. Vous voyez, selon où on va, toujours, c'est jamais la même réponse. Non, vous en priez, je peux y aller.
C'est une grosse responsabilité parce que c'est l'envers qui s'occupe toujours de cela et on en remercie parce que c'est un gros travail qui est mis sur le site de l'émission aujourd'hui et ainsi tout le monde,
le podcast,
peuvent les conférences et merci, merci.
Le gros responsabilité, monsieur, il y a une responsabilité.
Alors, la conférence de ce soir est intitulée « Calvin et les Juifs » et j'aimerais faire une petite modification sur cet intitulé pour vous parler plutôt du calvinisme face aux Juifs parce que il y aura deux parties. Une première partie va traiter de Calvin et de quelques points de théologie. J'essaierai d'être le moins aride possible, mais nous ne pouvons pas en faire l'économie pour comprendre l'attitude qui naît à ce moment-là. Mais la deuxième partie se concentrera sur les générations qui ont suivi et où il sera peut-être moins question de théologie et plus d'histoire. Ou comment le destin des calvinistes a fait qu'ils se sont reconnus, ils se sont identifiés au destin du peuple juif dans l'histoire. Et dans l'histoire moderne, lorsque je dis moderne, j'entends celle des 17e, 18e siècle à peu près. Pour introduire mon sujet, j'aimerais vous lire un paragraphe d'un livre qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Emmanuel Heyman, qui est juif, et qui a écrit « L'antisémitisme en littérature, c'est une compilation tout à fait désolante de tout ce qui a été écrit de plus notoire, par, et on découvre malheureusement les plus grands noms, contre les juifs, dans l'histoire occidentale. Et il y a bien sûr un chapitre intitulé « L'antisémitisme chrétien ». Et là, on lit des choses qui sont, à mon avis, calamiteuses, et il en arrive à la réforme. Et là, il y a un petit paragraphe qui dit ceci. « La réforme qui agita le monde chrétien au XVIe siècle devait tout naturellement, avec un retour vers les textes fondamentaux de la Bible, opérer un rapprochement avec le judaïsme. Théodore de Bèze, disciple de Calvin, qui ne fut pourtant pas un chantre de la tolérance, notait cependant dans sa traduction du Nouveau Testament, et je vous cite Théodore de Bèze, « Nous devons à la vérité nous glorifier dans le Seigneur, c'est-à-dire nous réjouir des bienfaits divins, mais non de manière à mépriser les Juifs. Ceux qui aujourd'hui s'appellent chrétiens et qui ont négligé ce devoir, seront très certainement punis à l'avenir, parce que sous l'impulsion de la seule méchanceté et de la perversité, ils ont maltraité de toute manière ce peuple saint quant à leur père. » Là, vous entendez une tonalité différente pour un chrétien qui s'adresse à d'autres chrétiens et qui leur indique comment il faut parler, à son avis, des juifs lorsqu'on est chrétien et lorsqu'on est spécialement dans la ligne de la pensée de Calvin. Alors, première remarque, Emmanuel Eman dit une chose très juste. Il dit que Calvin n'était certainement pas un chantre de la tolérance. Et c'est tout à fait exact. La réforme, et spécialement la réforme calvinienne, a été tout ce que vous voulez, sauf tolérance. Calvin s'est montré d'une rigueur absolument impitoyable envers tout ce qui n'était pas lui, envers tout ce qui était étranger à sa pensée. Par certains aspects, sa pensée est tellement punitive qu'on a pu dire, et avec quelques raisons, qu'elle avait des aspects totalitaires, et je parlais de Michel Servet tout à l'heure, et quelques autres en ont fait la triste expérience. Mais ça n'est pas de tolérance qu'il s'agit vis-à-vis des juifs. C'est d'autre chose, de beaucoup plus profond. Pour le théologien Calvin, c'est de reconnaissance. C'est pas la même chose. Parce que vous savez, la tolérance, évidemment, c'est un beau mot, mais la tolérance, ça s'accorde avec peut-être une certaine condescendance, et puis ça se retire. La reconnaissance, c'est autre chose. Et au fond, il va s'agir maintenant de ce que Calvin a reconnu dans les textes qu'il a commentés. Et n'oublions pas que Calvin, dont on a beaucoup dit qu'il avait été une sorte d'homme polyvalent, probablement un ton un peu exagéré, il faut le remettre dans ce qu'il a vraiment été, c'est-à-dire un commentateur de l'Écriture, un interprète de l'Écriture et un constructeur d'Église. Il a été essentiellement cela. Eh bien, je vais essayer de vous indiquer, au fond, quelle a été sa lecture et sa découverte. Alors, bien sûr, il faut aussi ne pas faire d'anachronisme. Je vous donne cet avertissement, c'est important, d'abord parce que nous avons, nous, dans le regard que nous portons sur le peuple juif, des connaissances historiques que Calvin n'avait pas, et notamment il y a ces deux événements complètement fondamentaux que sont la Shoah et la création de l'État d'Israël. On devrait d'ailleurs dire, si on était calviniste strict, la restauration ou la renaissance de l'État d'Israël, et non pas sa création. C'est pas une création ex nihilo, c'est tout simplement une restauration. Et puis Calvin, par certains côtés, a aussi encore un pied dans le Moyen-Âge, on est tout au début du XVIe siècle, et il n'est pas sûr que lui-même ait bien mesuré les conséquences de ses affirmations. J'en suis pas certain. Et puis c'était pas son agenda non plus. Il voulait réformer l'Église, et son souci premier, ça n'était pas la reconnaissance du judaïsme, même si parfois, vous allez le voir, il en est à deux doigts. Donc, cet homme a été le promoteur d'une révolution théologique que j'hésite pas à considérer comme finalement son laisse le plus important pour aujourd'hui, parce que c'est quand même par certains aspects une pensée qui a beaucoup vieilli, qui concerne certains spécialistes, mis à part les grandes affirmations. Aujourd'hui, les théologies sont plurielles. Mais Calvin, lui, est le promoteur d'une révolution théologique en ce sens qu'il a amener un changement de regard des chrétiens par rapport aux juifs et par rapport à l'héritage dont les chrétiens se réclament. Ça n'est pas non plus un hasard absolu. Si vous connaissez l'écrivain Michelet, l'historien Michelet, Michelet, dans son volume sur la réforme française, significativement, commence par un chapitre sur les juifs. Ça, c'est très intéressant. Il ouvre la réforme française par un chapitre sur les juifs, et dans ce chapitre, il explique comment à la Renaissance, où il y a eu cette redécouverte de l'Antiquité, ça n'a pas été seulement la redécouverte de l'Antiquité gréco-latine, mais ça a été aussi, via la Bible, la redécouverte du patrimoine hébraïque. Et lorsque je dis patrimoine hébraïque, ça n'est pas seulement l'Écriture, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et les écrits, mais ça a été aussi la redécouverte du Talmud, ou tout simplement la découverte du Talmud, voire de la Kabbale, et avec des noms d'intellectuels comme Rochelin, comme Guillaume Postel, comme le fameux Pic de la Mirandole, qui s'était passionné pour la Kabbale, qui prétendait l'avoir comprise, là, j'ai quelques doutes, Mais enfin, un cardinal italien, le cardinal Viterbo aussi, Sébastien Münster, qui va avoir beaucoup d'importance pour Calvin, et par le biais de l'imprimerie, eh bien, la Bible, des compilations du Talmud, sont mises à disposition d'un public intellectuel non juif, probablement pour la première fois dans l'histoire de l'Occident. Par exemple, on sait que Calvin se servait de la Bible dite de Bamberg. Bamberg, c'est une maison d'édition qui publiait des Bibles bi- ou trilingues avec le texte hébreu, mais aussi tout le long du texte hébreu, signalant tous les débats rabbiniques importants par rapport à tel ou tel ou tel passage, les renvoie. Et ça, c'est une des sources importantes de Calvin par rapport à la tradition juive. Et puis, bien sûr, des compilations du Talmud. On sait qu'il en possédait dans sa bibliothèque. Il avait ramené ça de Ferrare, une sorte de compilation du Talmud par Nicolas de Lyre, et qui a eu beaucoup d'importance. Par exemple, on parle souvent de Calvin et l'argent. Et en fait, quand vous reprenez les textes, et ça je les ai repris, j'ai fait la vérification, on s'aperçoit que Calvin n'a rien inventé, mais que sa doctrine sur le prêt intérêt et le rapport à l'argent, c'est du copier-coller du troisième du traité Baba Matia, chapitre 5. Même la référence, on a été vérifié. C'est exactement les mêmes raisonnements, la même argumentation, etc. Donc il reprend ça et il la répercute évidemment dans le monde chrétien. Et au fond, l'éthique calviniste en matière d'argent, c'est l'éthique juive. En matière d'argent, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à ça. Calvin, donc, lecteur de l'écriture. Que peut-on dire de saillant par rapport aux juifs? Je vais vous indiquer quelques points importants, parce que vous vous rendez bien compte qu'on pourrait y passer toute une année. Hein. Mais d'abord ceci. Calvin affirme à de nombreuses reprises la dignité imminente du peuple juif, qui est d'abord le témoin et le gardien de la transcendance, de la pure religion, comme il dit, au milieu des nations. Pour Calvin, le problème principal, c'est l'idolâtrie. Toute sa théologie, c'est une théologie contre l'idolâtrie. Donc évidemment, il se retrouve chez lui dans Moïse. Et lorsque je dis dans Moïse, c'est dans la Torah, parce que Calvin l'a dit comme ça. Les chrétiens ont reçu d'Israël les Écritures et la révélation qui en découle. Pour Calvin, tout est dans Moïse, tout vient de lui, y compris le Messie. Il dit quand même quelque part que quand on aura bien tout épluché, parce qu'il a une très jolie... C'est un vocabulaire très chaud, très préféré comme ça, eh bien, on s'apercevra que chez notre Seigneur Jésus-Christ et les apôtres, il n'y a rien qui était déjà dans lui. Il faut quand même le dire, n'est-ce pas? Bon. Il n'y a donc rien de nouveau dans le Nouveau Testament, qui, selon Calvin, est un prolongement de la même révélation. D'ailleurs, il refuse l'idée qu'il y ait deux alliances. Il n'y en a au fond qu'une seule. Hein. Et à partir de là, il écrit ceci dans l'institution chrétienne, mais c'est une affirmation qu'on retrouve à bien d'autres endroits, qui « Il faut retirer de tous les fidèles cette erreur pestilentielle de ceux qui n'ont d'autre estime des juifs que comme d'un troupeau de pourceaux. » Fin de citation. Dans l'esprit de Calvin, vous voyez, la réforme de l'Église, elle doit pouvoir extirper des fidèles ce préjugé que lui considère comme pathologique. Il le compare à une peste de l'esprit, ce qui est tout de même, n'est-ce pas, fort. Bon. Donc, cette dignité, Calvin n'aime pas qu'on parle mal des juifs, et il dit quelque part, considérant les tribulations et les persécutions au cours des siècles et tout ça, Calvin dit je n'applaudis pas volontiers à leur misère. C'est une manière de dire, il y en a qui s'en réjouissent, mais vraiment, il n'y a pas lieu de s'en réjouir. Ensuite, il y a évidemment l'affirmation théologique centrale que les juifs sont le peuple messianique. Et qu'un juif, c'est un représentant du peuple messianique. Moi, j'ai été élevé comme ça, hein, depuis tout petit. C'est toujours ce qu'on m'a dit dans une famille pastorale, ça ne se discutait pas. C'était comme ça. Et ça, évidemment, nous pensons à l'évangile de Jean, à la fameuse affirmation selon laquelle le salut vient des Juifs. Et la définition que Calvin donne du peuple messianique, c'est la suivante, citation, « La grâce de Dieu n'est pas tellement enclose entre le peuple des Juifs qu'elle ne puisse découler aux autres nations et se répandre universellement par tout le monde. Fin de citation. Que veut-il dire? Eh bien, au fond, il dit le judaïsme messianique, en ce sens qu'il est porteur d'une vocation universelle, qui le dépasse. Quelque part, il est porteur d'une parole qui est plus grande que lui, et qui est pour l'humanité tout entière. Et le messianisme, il est justement dans cet universel d'une parole particulière. Le judaïsme a un message pour l'humanité. À leur manière, les chrétiens ont reçu et répercuté ce message. Mais ce qui est important, c'est qu'on sent que chez Calvin, en tant que chrétien, il se sent dans une situation de dette. Une situation de dette par rapport au premier. Et c'est de là probablement que vient ce qu'on pourrait déjà appeler, même si l'expression n'existe pas encore, l'enseignement du respect. Le fait que la plupart des juifs n'aient pas admis le Christ, pour Calvin, ça ne change pas le fond du problème. Ça ne change rien à cette affaire. Donc les juifs sont le peuple messianique. Le fait que les juifs n'aient pas adhéré au Christ ne signifie nullement pour Calvin que Dieu ait laissé tomber son peuple, qu'il s'en soit détourné. Pour ça, c'est important, parce que vous savez qu'on a beaucoup développé, dans une certaine lecture chrétienne, la théorie de la réjection. Dieu a rejeté son peuple, et donc comme il l'a rejeté, au fond, il vit à titre de ruine de démonstration, hein, en quelque sorte, quelque chose comme ça. Comme l'alliance est fondée en Dieu seul, elle demeure ferme et inviolable. Et il écrit, citation, « Ce serait une chose absurde de penser que cette nation-là soit délaissée de Dieu. » Fin de citation. Au contraire, dit-il, « Dieu demeure ferme dans son propos, il ne rejette pas le peuple qu'il a connu auparavant. » Et ça, c'est une idée qui est très importante chez Calvin, c'est que autant il est pessimiste sur l'être humain, il est un pessimiste absolument radical, c'est vraiment... d'une noirceur terrible. Enfin, vraiment, nous sommes de pauvres larves, il faut le savoir, face à la grandeur de Dieu. La seule chose qui peut nous élever, c'est ce qu'il appelle la crainte de Dieu. Mais alors, si Dieu a parlé et si Dieu a décidé, rien ne peut faire, même l'impiété, même le blasphème, que Dieu revienne sur sa parole. Parce que c'est Dieu qui l'a donné. Hein. Et Calvin est un juriste de formation. Alors, un contrat, c'est un contrat. Quand en plus, un des deux contractants, c'est la transcendance elle-même, évidemment, ça pèse lourd et ça ne se discute pas. Dieu demeure ferme en son propos et ne rejette pas le peuple qu'il a connu auparavant. Rien ne peut annuler ce que Dieu a décidé. Ce qui veut dire quoi? Là, ce n'est pas Calvin qui le dit, mais je le déduis. Ce qui veut dire que c'est Dieu seul, et non les chrétiens et non l'Église, qui décide du destin des Juifs et qui le dirige. Et il y a quand même chez Calvin, évidemment, cette idée de la prédestination, qu'on retrouve partout, hein, la prédestination secrète, double en plus, donc entre ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus, mais qui rend aussi là de grands services, puisqu'au fond, cette prédestination qui dépasse tout ce que nous sommes capables d'imaginer, eh bien, elle enlève aux chrétiens le pouvoir de dire quelque chose sur le destin des juifs, parce que c'est Dieu seul qui décide, le conseil éternel de Dieu qui passe notre imagination comme il veut le dire. Donc, pas de rejet. Et s'il n'y a pas de rejet, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de substitution. La substitution, c'est un des grands problèmes dans les discussions entre théologiens juifs et chrétiens. Puisqu'on trouve dans la littérature patristique, déjà un petit peu dans certains écrits du Nouveau Testament, Paul n'est pas toujours d'une clarté limpide là-dessus, l'idée qu'au fond, depuis le Christ, l'Église est Israël à la place d'Israël. Ça s'appelle un vol d'identité. C'est-à-dire, je suis chez vous, je m'installe chez vous, ben, tout ce qui est à vous, c'est à moi. Et je disais tout à l'heure, que dans un aparté, que le problème auquel, en tant que qu'enseignant de jeunes, nous nous heurtons toujours, comment rendre compte d'une Bible chrétienne dans laquelle il y a deux livres, dont un qui n'est pas le nôtre? C'est pas très simple. Comme question, si on veut vraiment s'affronter à la question. Il faut toujours dire que c'est un peu dépassé, voilà, ça c'est pas sérieux. Mais si on veut être sérieux, il y a un très gros problème, et c'est toute la théorie de la substitution qui est derrière. Eh bien, pour Calvin, les chrétiens et l'Église ne sont pas et ne seront jamais, au fond, Israël à la place d'Israël. À la place, Calvin va inventer une autre idée. Je ne suis pas sûr qu'elle fasse l'affaire des Juifs non plus, il faut quand même dire la vérité, mais disons qu'elle est au moins plus respectueuse de leur identité, c'est l'idée, une idée politique. C'est une idée de confédération. Il avait fait une préface pour la Bible d'Olivetan. Olivetan, c'était son cousin, c'est la première traduction enfin protestante qui allait le devenir. C'était les pauvres de Lyon qui avaient demandé à Olivetan de faire une traduction. Et Calvin, jeune, avait rédigé une préface pour cette traduction. Et la préface est adressée aux Juifs. Et elle commence par ces mots quand même absolument étonnants. Au peuple de l'alliance de Sinaï, notre allié et confédéré, salut. C'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, il y a cette idée qu'avec la venue du Christ, au fond, les non-juifs ont été confédérés aux juifs. Je ne suis pas sûr que ça fasse l'affaire des juifs, nous sommes d'accord. Mais c'est son idée. Le salut des gentils, dit-il, est conjoint ou confédéré au salut du peuple élu. Il dit, ailleurs, il y a une plus jolie expression, parce qu'il a toujours beaucoup d'imagination littéraire, et il dit, nous avons reçu une combourgeoisie dans la République d'Abraham. À l'intérieur de cette confédération, il y a quand même préservation de l'identité des uns et des autres. Et j'ai découvert, dans son commentaire de l'Épître aux Romains, un passage que je ne résiste pas à vous lire, où au fond, il envisage comment ça fonctionnerait dans cette confédération. Il dit, et c'est Calvin qui parle, les Juifs sont justifiés de la foi pour ce qu'ils naissent héritiers de la grâce en tant que le droit d'adoption vient à eux par une suite des pères aux enfants. Ça, pour Calvin, c'est très important. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes de lignage. D'ailleurs, il attribue une certaine dégénérescence du judaïsme condamné par Paul au fait qu'ils n'avaient pas été assez sérieux avec leur lignage et qu'ils avaient judaïsé des gentils sans trop faire attention et que les problèmes sont venus de là. C'est quand même étonnant, n'est-ce pas, de lire ça, c'est au début de l'Épître aux Romains. Et il ajoute, donc les juifs sont justifiés de la foi, les gentils, donc les non-juifs, sont justifiés par la foi quand ils entrent dans l'alliance à leur tour. Ça veut dire qu'Israël demeure un peuple spécial au salut duquel Dieu rend témoignage. Vous sentez que là, nous ne sommes pas loin de la pleine reconnaissance, n'est-ce pas ? C'est un pas qui ne franchira jamais. Je pense que ses priorités n'étaient pas là. Bon, c'est une époque où les priorités étaient ailleurs. Mais nous, ces lointains héritiers, c'est un pas que nous pouvons franchir facilement, grâce à lui. Un autre point qui est important, c'est qu'évidemment chez Calvin, il n'est nulle part question de déicide. La notion de déicide est une horreur théologique, c'est un monstre conceptuel qui n'a pas cours dans la pensée de Calvin, parce que pour lui, cette notion n'a tout simplement aucun sens. Et si vous avez l'occasion, je vous invite à relire son commentaire de Matthieu 27. Vous savez que Matthieu 27, c'est donc le récit de la Passion, et c'est là que se trouve un passage quand même difficile. Pour nous chrétiens, enfin moi c'est un passage personnellement je trouve difficile, c'est le moment où on présente au peuple, enfin on ne sait pas qui était ce peuple, mais il y a une poignée de gens qui sont là, et on leur présente Jésus ou Barabbas, et qui voulez-vous ? Et alors évidemment on préfère sauver Barabbas, et Pilate leur dit, est-ce que c'est bien cela que vous voulez ? Et il y a la fameuse phrase, oui, que son sang retombe sur nos têtes, celle de nos enfants, vous connaissez cette parole terrible. Il faut relire le commentaire de Calvin. Calvin nous dit avec sa liberté, oh mais, je vous donne la substance, il dit oui mais, cette équipe de gens qui étaient là, c'était des excités, ils avaient la tête un peu près du bonnet, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Et puis de toute façon, ils peuvent bien blasphémer, Dieu a parlé. Donc de toute façon, ça ne changera rien, et il annule la malédiction en disant, afin de donner à connaître que ce n'est pas en vain que Dieu a contracté une alliance avec Abraham, il les exempte de cette damnation universelle. Jean Calvin raye la damnation en disant pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste pour nous enseigner la vanité de l'incrédulité. Tu peux être incrédule tant que tu voudras, si la main de Dieu est sur toi, elle est sur toi. J'ajoute qu'il n'y a pas non plus de la part du réformateur, et c'est important, d'entreprise délibérée de conversion des juifs. Alors bien sûr qu'il faut rien quand même idéaliser. Calvin n'a aucun doute que c'est sa lecture à lui de la loi qui est la bonne, et il aurait été ravi si les juifs avaient rejoint sa réforme. À notre ami et confédéré, le peuple de l'Alliance de Sinaï, salut, il leur explique quand même que c'est sa manière à lui de dire la loi qui est la bonne. Il reste un théologien chrétien. Mais au fond, il place le point de contentieux là où il doit être, sans exagérer, en disant que c'est une question d'interprétation de la loi. Parce que lui, il voit dans le Messie la promesse intérieure de la loi. Et il reproche au rabbin qui n'y accepte pas de rester à l'extérieur de la loi. Bon, vous voyez, on peut discuter longtemps là-dessus. Donc, il peut lui arriver de polémiquer contre les juifs. Ce peuple indomptable, dit-il, sur tel ou tel point de doctrine. Et comme il fait toujours, parce que ça c'est la manière de Calvin, quand il polémique, c'est très vif. C'est le moins qu'on puisse dire. On n'oserait plus aujourd'hui s'emporter comme ça. Et Paul Jacob, dans son histoire de l'antisémitisme, parle de l'irascible Calvin. C'est vrai qu'il est irascible, mais ça n'a rien à voir avec un quelconque antijudaïsme. Comme je vous le disais dans mon introduction, le réformateur se montre très irascible envers tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, et ça fait du monde. Et par son caractère, finalement, Calvin n'est d'accord qu'avec lui. Il reste, si je reviens à cette question de conversion des juifs, que la prédestination secrète de Dieu, au fond, rend les tentatives de conversion tout à fait vaines. Pour Calvin, la prédestination est transversale aux juifs comme aux chrétiens. Elle traverse les deux, transversalement. Dans les deux groupes, il y aura des perdus et des sauvés. Et ça, c'est Dieu seul qui le décide, le conseil éternel, et cela dépasse l'entendement humain, ce qui fait que, au fond, contrairement à ce qu'on imagine aujourd'hui, le calvinisme a été peu missionnaire. On considérait à l'époque des réformateurs que l'évangile avait été prêché sur toute la terre, et que maintenant il fallait faire le tri. Et la prédestination, c'est un peu cette idée d'un tri divin. Et maintenant, voici probablement le plus original pour un théologien chrétien. C'est que, à sa manière, Calvin maintient la loi. La loi dont il sait très bien qu'elle veut dire à la fois enseignement et législation. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, « Dieu a voulu que la loi fût écrite et qu'elle demeura afin qu'elle ne servît point seulement pour un âge, mais que jusqu'à la fin du monde, elle eut sa vigueur et son autorité. » Fin de citation. C'est quasiment un principe talmudique. Jusqu'au jour de la rédemption, les chrétiens continuent d'être soumis à la loi. À quoi sont-ils soumis? Eh bien, je dirais à la loi dans sa dimension universelle, mais qui ne se réduit pas aux lois noachides, c'est-à-dire à celles qui s'appliquent, n'est-ce pas, dans l'alliance avec Noé aux non-juifs, mais au code de Deutéronomiste, excepté les lois strictement religieuses de pureté rituelle, de circoncision, etc. Mais Calvin aurait voulu, il a essayé de créer à Genève une législation directement inspirée du Deutéronome. Ça n'a pas toujours facilité les choses, il faut quand même bien le dire. Et lorsqu'on lit son commentaire de l'Épître aux Romains, il commence par les commentaires de Paul, mine de rien, ou bien il faut se compagner à Paul, qui proclame quand même la fin de la loi, ou bien alors il tire Paul au maximum vers son judaïsme d'origine, un des deux. Pour le réformateur, la loi au sens de Torah offre un miroir, c'est son expression. Il revient toujours, il dit c'est un miroir, c'est un beau et clair miroir de ce que nous sommes. Et au fond, toute la somme de notre sagesse, c'est la première phrase de l'institution, elle consiste en la connaissance de Dieu et la connaissance de soi-même. Et cette connaissance, elle s'obtient dans le miroir de la Torah. La Torah offre un miroir dans lequel l'humanité peut se déchiffrer à l'horizon de la transcendance, en même temps qu'il lui est offert des règles de conduite. De la même manière, le peuple juif, là, Calvin parle du peuple juif biblique, littéraire. Ça m'amènera à une petite précision tout à l'heure. Le peuple juif biblique est appelé par lui le peuple miroir. Ça, je trouve ça magnifique. C'est le peuple miroir pour Calvin, c'est-à-dire que c'est une sorte de personne collective. que Dieu a disposée dans l'histoire, à travers laquelle l'humanité tout entière doit connaître Dieu et se connaître elle-même. Et il applique constamment ce principe, qui lui aussi est quasi talmudique, nous ne devons nullement ajouter rien à la loi, aussi n'est-il pas licite d'en rien diminuer, mais il nous faut cheminer sur la voie qui nous est montrée par elle, car, dit Calvin, la loi est maîtresse pour enseigner les hommes à faire droite probation et jugement de bonnes choses. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'allais faire une petite précision. Calvin a eu affaire surtout au judaïsme biblique. À l'époque de la Réforme, il n'y a plus de communauté juive à Genève. Ça n'est pas du tout la Réforme qui a expulsé les Juifs, ils ont été expulsés bien avant, et c'est d'ailleurs une hypothèse tout à fait fascinante de se demander quelle aurait été l'attitude de Calvin s'il y avait eu une communauté juive présente à Genève. En tout cas, ce que je crois on peut dire avec certitude, c'est que si à l'époque il avait fallu chercher des antisémites, c'est pas du côté de Calvin et des réfugiés qu'il aurait fallu les chercher. Peut-être du côté d'autres qui aiment être bien chez nous, vous voyez ce que je veux dire. Et Calvin a eu peu de rapports avec des juifs de chair et de sang. Chaque fois qu'il a pu, il a sauté sur l'occasion, il a eu des rapports, semble-t-il, à Paris quand il apprenait l'hébreu au Collège de France, où il y avait des lettrés juifs qui étaient là, et probablement pendant la période baloise, il y a une ou deux lettres, mais au fond, c'est très peu. Il n'a pas eu le temps, il n'en a pas eu l'occasion. Il ne fait pas de doute que s'il s'était contenté d'avoir une vie d'études comme il l'aurait souhaité, plutôt que de se lancer dans cette histoire de réforme, eh bien, Calvin, certainement, s'y serait beaucoup plus profondément encore intéressé. J'aimerais ajouter encore deux choses. Dire d'abord que, bien sûr, Calvin ouvre une piété qui va rapprocher les chrétiens des juifs, puisque, à partir de là, on n'a plus affaire qu'au livre des psaumes. Quand je dis le livre des psaumes, c'est le livre des psaumes, bien sûr, traduit en français, mais de la manière la plus scrupuleuse et la plus stricte possible. Ce n'est pas les psaumes christianisés, hein, aussi fidèles que possible au texte original. Et là, il faut relire, s'il y avait un seul texte calvin que je devais vous suggérer de lire, c'est la préface qu'il fait au commentaire des psaumes. C'est un texte absolument magnifique. D'abord, c'est un texte dans lequel il parle de lui, ce qui est rare, parce qu'il n'aime pas trop se mettre en scène. Et là, il dit qu'au fond, les psaumes, nous dit-il, sont comme une anatomie des différentes parties de l'âme. N'est-ce pas ? Et il s'identifie au roi David, ça lui va bien évidemment, à la fois dans ses élans d'enthousiasme, dans ses déceptions, dans ses peurs, dans ses doutes, dans ses réconforts, dans son dialogue avec Dieu. Et il a voulu pour chacun fidèle la même chose. On est un peu dans une tonalité qui pourrait rappeler un peu Philon d'Alexandrie, de nouveau le miroir de l'âme. Miroir de l'humanité, miroir de l'âme. Tout cela donc oblige à définir un regard différent des chrétiens sur les juifs. En tant qu'êtres humains, bien sûr, les juifs sont égaux aux autres, mais ajoute Calvin, ils ont été sanctifiés par l'alliance sacrée et ornés d'une noblesse spéciale que Dieu n'a pas communiquée aux autres. Le simple fidèle chrétien est donc prévenu, on ne se moque pas, on ne se réjouit pas des misères du peuple juif au cours de son exil, car, dit Calvin dans un sermon, la même sévérité est prête à te tomber sur la tête. Je conclus donc cette première partie en disant que Calvin a opéré au XVIe siècle une véritable révolution dans la théologie occidentale, en ce qui concerne la perception des juifs par les chrétiens. Et je crois qu'il a posé les bases d'une pleine et entière reconnaissance de la religion d'Israël. J'aimerais vous dire, dans une deuxième partie conclusive, ce qu'il en a été des générations suivantes. Parce que c'est très important pour la constitution de notre perception protestante aujourd'hui. Au siècle suivant, les persécutions incessantes contre les calvinistes français, la révocation de l'édit de Nantes en 1685, nous sommes un bon siècle après, par Louis XIV, et ce qui en est résulté, c'est-à-dire l'exil forcé des protestants, les tentatives d'extermination quand même, hein, parce qu'on se rappellera que, bon, moi j'ai une partie de ma famille qui vient des Cévennes, donc c'est des choses que je connais de près. Au moment de la guerre des Camisards, qui est une révolte pour la liberté de conscience, hein, c'est pas autre chose, eh bien, c'est une révolte qui va durer pas très longtemps, 2-3 ans, et qui va finir par être écrasée dans le sang, eh bien, sans que je veuille faire la comparaison, mais ce sont les mots eux-mêmes, on imagine une sorte de solution finale pour le problème protestant. Cette solution finale, on l'appelle le brûlement des Cévennes. Le brûlement des Cévennes, ça consiste à raser les villages qui refusent de se convertir et à exterminer les gens qui s'y trouvent. Et ça ne s'est pas fait dans toutes les Cévennes, mais ça s'est fait dans un certain nombre d'endroits. Voilà. Et donc toutes ces tribulations des calvinistes vont se charger de créer une sorte de parallèle avec le destin des Juifs, et cette fois plus tellement le judaïsme biblique, mais le judaïsme depuis la dispersion. Et là, j'aimerais vous parler de ce qu'on pourrait appeler le cercle landais, avec trois très grandes figures qui ont beaucoup d'importance au fin du XVIIe et tout début du XVIIIe, qui sont Pierre Jurieux, Jacques Basnage et Pierre Bègue, qui sont tous des contemporains, ils se connaissaient, et ce sont tous des calvinistes réfugiés en Hollande suite à la révocation. Quelques mots d'abord sur Pierre Jurieux. Pierre Jurieux, c'est un pasteur qui a été professeur d'hébreu à l'Académie protestante de Sedan. Il est le premier réformé à avoir écrit une thèse érudite et informée sur la Kabbale. C'est un calviniste orthodoxe qui a une excellente connaissance du judaïsme. À la fermeture de l'Académie par ordre du roi, il se réfugie à Rotterdam. Alors Jurieux, c'est un adversaire acharné de Louis XIV, c'est un faucon de la cause de Hugues, n'est-ce pas ? Il fait connaître à toute l'Europe l'héroïsme des Camisards dans ses lettres pastorales. Et en Hollande, il est en contact avec des communautés juives, bien entendu. Et lui, il a affaire au judaïsme de son temps, plus seulement au judaïsme biblique et littéraire de Calvin. Jurieux, c'est un théoricien de l'indépendance de la conscience individuelle, du droit de résistance armée à la tyrannie, on lui a beaucoup reproché, et de la souveraineté du peuple. Mais ce qui motive sa sympathie pour les Juifs, c'est la source d'inspiration qu'il y trouve. Car le peuple juif, à travers l'histoire, enseigne ce dont les protestants ont à ce moment-là le plus besoin, ce qui est le plus significatif pour eux, c'est-à-dire la persistance dans l'identité, la résistance à l'assimilation. Ça, ça fascine Jurieux. Les Juifs, au fond, ils offrent à travers les siècles une incarnation impressionnante de la fidélité. Et ce dont les réfugiés huguenots ont besoin, c'est ça, parce que, toute proportion gardée, autant pour les Juifs la chute du Temple a été une sorte de catastrophe métaphysique, autant la révocation pour les calvinistes français, ça a été la même chose. Ça posait le problème du déni de la Providence par rapport à quelque chose qu'on pensait juste. Et ça posait toutes sortes de questions énormes. Donc, Jurieux parle de cela et il écrit un livre qui s'appelle « L'accomplissement des prophéties », publié un an après la révocation, qui est censé annoncer le fin du règne de la monarchie absolue de Louis XIV. Et ce qui est sidérant, c'est qu'on lit en avertissement de ce livre ceci. À la nation des Juifs, je prie cette nation de vouloir lire la seconde partie de cet ouvrage avec attention et sans préjugés. Ils n'y trouveront rien qui puisse les effaroucher. J'avoue que l'espérance qu'ils ont d'un règne du Messie qui sera principalement pour eux est fondée sur des oracles précis et indubitables, que même Jérusalem doit être rebâtie et qu'ils seront un jour rassemblés sur leur terre. 1686. C'est impressionnant. Quand on pense à ça aujourd'hui, Jurieux a la particularité d'être le premier sioniste religieux, avant le Rav Kook, si vous voulez, hein, si vous acceptez ce rapprochement. Il est d'ailleurs régulièrement cité, et plus que ça, dans sa phrase, l'espérance qu'ils ont d'un règne du Messie qui sera principalement pour eux, c'est ce qui est discuté aujourd'hui de la théorie des deux Messies. Donc Jurieux est de ce point de vue très important. Et puis maintenant vient le second personnage, qui est le beau-frère du précédent, c'est aussi un pasteur, mais qui lui est historien et diplomate. Il s'appelle Jacques Basnage. C'est également un théologien calviniste, lui aussi réfugié en Hollande après la révocation. Et lui va entreprendre un travail d'historien absolument original, une œuvre sans précédent. Il entreprend une monumentale histoire des Juifs allant de Jésus-Christ jusqu'à présent, de la dispersion, de la chute du Temple jusqu'en 1700. Dans son esprit, cette œuvre doit prolonger l'œuvre de Flavius Josèphe. C'est la première fois qu'en Occident, quelqu'un essaye d'appliquer à ce sujet difficile les règles de la critique historique. Il produit 5 volumes qui sont une mine de renseignements qui suppose un énorme travail de collègues. Basnage y fournit des indications sur toutes les communautés juives de la planète sur lesquelles il a pu collecter des renseignements. Et cette masse d'informations suppose évidemment qu'il a dû accéder à de nombreuses sources et qu'il y a pu y accéder par l'intermédiaire de lettres juives. L'inutile de vous dire que l'ouvrage a fait sensation à travers toute l'Europe. Et pour Basnage, le rapprochement est évident entre les tribulations du peuple juif à travers l'histoire chrétienne et les tribulations des protestants à partir un peu de la réforme, toute la période des guerres de religion et surtout après la révocation. Et il y a en particulier un chapitre très conséquent dans lequel il rapporte tous les différents décrets et arrêts à propos des juifs et même contre les juifs qu'il a pu collecter au cours de l'histoire. Et lorsqu'il présente et commente ça, on entend en quelque sorte dessous la complainte des protestants qui ont vu s'abattre sur eux quand même, parce que la révocation n'est pas arrivée comme ça, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais elle a été préparée. Il y a eu aussi toutes sortes de privations, d'interdictions, de déchéances, etc., et de spoliations. Alors cette œuvre de Basnage a connu des vicissitudes. Elle a été, elle a été réécrite. Il y a eu l'édition pirate qui est sortie, et dans cette édition pirate, il y avait plusieurs centaines de censures ou autres coupures de faits ou de jugements dont on estimait qu'il n'était pas bon que ce soit répandu parmi les lecteurs. Cette édition falsifiée est parue en 1710. Et Basnage se plaignit qu'on a enlevé mon histoire des Juifs, on a effacé mon nom, et il ne s'est pas relevé de cette trahison. Mais il est intéressant de savoir que l'historiographie israélienne fait une place à cette œuvre très particulière, comme vraiment faisant date dans une histoire globale du peuple juif. Le troisième nom, c'est celui de Pierre Bayle. Pierre Bayle qui, lui, est ami exécuteur testamentaire du précédent, dont ils se connaissaient tous, mais ils ne s'entendaient pas toujours très bien parce que Pierre Bayle était l'ennemi intime de Jurieu, qui, par sa propre biographie, a une biographie d'errance et de malheur. Il fait ses études de théologie à Genève, mais il ne devient pas pasteur parce qu'il n'aime pas parler en public, alors évidemment. Et il mène une vie d'abord de philosophe, il enseigne la philosophie, puis il se réfugie en Hollande. Son frère meurt en prison parce que son frère était pasteur. Et c'est au fond un théologien qui est devenu à la fois philosophe et journaliste. Et alors ce qu'on doit à Bayle, c'est évidemment le fameux dictionnaire historique et critique qui est un réquisitoire monumental contre les fanatismes et les obscurantismes de toute obédience. Dans ce dictionnaire, il n'épargne personne, mais il le fait avec une équité irréprochable. Il s'en prend aux préjugés de tout le monde, des calvinistes, des catholiques, des mahométans, comme on disait, des juifs et encore des autres. Au fond, Bayle dresse l'inventaire de toutes les persécutions, alors il y a une bonne place pour l'inventaire des persécutions dont les juifs ont été victimes au cours de leur exil dans le monde chrétien. Il y a des pages qui consacrent à l'inquisition espagnole, qui sont des réquisitoires implacables, et également il porte beaucoup d'intérêt à la question de l'Israël politique, n'est-ce pas ? Comment, dans quelles conditions l'Israël politique a cessé d'exister, mais au fond il en atteste comme ça. Et dans son traité de la tolérance universelle, ben, il réclame le droit à la liberté de pensée et de culte pour tout le monde, sans distinction ni discrimination. Il reprend le souhait de Spinoza que ce soit l'État qui soit l'arbitre impartial de cette tolérance universelle. Je mets quand même une petite nuance, c'est que on a parfois dit qu'il y avait chez Bayle un certain anti-judaïsme par rapport à la pensée juive, et qu'il aurait transmis aux Lumières, dont il frappe les premiers coups en quelque sorte, cet anti-judaïsme. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce jugement. Je crois que Bell n'a pas compris la pensée juive, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Il faut dire qu'il a des problèmes avec le monothéisme, alors évidemment. Il est tenté par le manichéisme, il s'en défend, mais il vient quand il est né dans le pays cathare. Hein. Mais il faut dire qu'il se bat jusqu'à y laisser sa santé pour la fin des ostracismes. Et quand même, Bell est avec Castelion le grand fondateur en Europe de l'idée de tolérance, qui finira par aboutir avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc vous avez là une école de pensée qui est quand même extrêmement importante, qui va être terriblement lue dans le monde protestant et au-delà. Et on pourrait encore dire que même chez les Lumières, finalement, la place de Jean-Jacques Rousseau est à part. Jean-Jacques Rousseau, même si c'est un enfant terrible du calvinisme, c'est quand même encore un enfant de Genève. Et Rousseau est très philosémite, il s'intéresse beaucoup aux Juifs de Pologne. Et dans la profession de foi des Vicaires Savoyards, ben on dit ça. Je ne croirais jamais avoir bien entendu les raisons des Juifs qu'ils aient un État libre, des écoles, des universités où ils puissent parler et discuter sans risque. Alors seulement on pourra savoir ce qu'ils ont dit. Hein, c'est beau, hein? Voilà. Et je termine. Pour terminer cette filiation, j'aimerais dire un mot de la Déclaration des droits de l'homme et d'un personnage qui s'appelle Jean-Paul Rabaut Saint-Étienne. C'était un pasteur, un Nîmois pasteur, fils de pasteur. Il est le fils de Paul Rabaut, qui a été un grand pasteur du désert, pasteur mythique. Et il va jouer un rôle important pendant la Révolution française. Rabaut Saint-Étienne, c'était son surnom, va participer activement aux travaux de la Convention. Et il se trouve associé à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Eh bien, c'est à lui qu'on doit le fameux article relatif à la liberté de conscience. C'est à lui. Et il y a un discours que vous pouvez trouver, il est très célèbre. Célèbre discours prononcé le 23 août 1789 à l'Assemblée nationale, dans lequel il réclame non pas la tolérance, mais la liberté pour les non-catholiques de France de professer leur culte. Et bien sûr, les non-catholiques, ce sont les protestants et les juifs. Et voilà ce qu'il dit. Il la réclame pour les protestants, citation, réduits à célébrer leur culte dans les déserts, bon les déserts c'était la campagne, exposés à toute l'intempérie des saisons, à se dérober comme des criminels à la tyrannie de la loi, et il la réclame pour les juifs, citation, ce peuple arraché de l'Asie, la géographie, toujours errant, toujours proscrit, toujours persécuté depuis presque 18 siècles. Et c'est à lui qu'on doit le fameux article sur le fait que chacun a droit à ses opinions, aussi bien philosophiques que religieuses. Il ne va pas lui porter chance, puisqu'il est guillotiné sous la terreur le 5 décembre 1793. Pour finir, ça, on pourrait dire que c'est une sorte de compagnonnage entre protestants et juifs, entre calvinistes spécialement et juifs, les luthériens c'est tout autre problème, en tout cas luthériens. Au moment de l'affaire Dreyfus, les protestants sont Dreyfusards, instinctivement, ils ne posent pas la question. Au moment de l'instauration de la laïcité, 1905, autour de Jules Ferry, vous avez une quantité d'ex-pasteurs, et de nouveau, on trouve les juifs et les protestants au coude à coude, et on pourrait aller jusqu'à l'attitude des églises calvinistes pendant la guerre. Et là, on pourrait citer l'affaire du Chambon-sur-Lignon, etc., le Trocmé, l'attitude générale des calvinistes français, et aussi Genevois. J'avais eu le privilège, il y a quelques années, de rencontrer, peu de temps avant sa mort, le docteur Gerhard Rigner. Rigner était le patron du Congrès juif mondial pendant la guerre. Il avait une sorte... Il était toléré à Genève, il avait un petit bureau où il pouvait se rendre, il s'était réfugié là, et il avait été le premier à être au courant des résultats de la conférence de Wannsee en 1942, qui a décidé donc de la solution finale. Il a été le premier alerté. Et alors, ce monsieur Rigner, c'est un vieux monsieur absolument délicieux, qui a écrit un très beau bouquin qui s'appelle « Il ne faut jamais désespérer ». Et lui pensait que là où les choses avaient le plus bougé, c'était justement dans les églises, dans les murs religieux. Il trouvait que c'était là que ça bougeait le plus. Et il me disait que, au fond, il était relayé par un certain nombre de pasteurs genevois éminents et quelques membres à l'époque du conseil écuménique des Églises. Voilà. Pour conclure, le dernier mot, vous me permettrez peut-être un hommage du vice à la vertu, une manière de clore. Quand on va lire les auteurs antisémites, c'est important de connaître ses ennemis. Hein. Eh bien, les principaux auteurs antisémites ont pointé du doigt cette convergence. Drummond écrit que tout protestant est à moitié juif. Et Charles Maurras nous dit que les deux ferments de la dégénérescence de la civilisation européenne sont l'esprit juif et l'anarchie protestante. Je vous remercie.
Je disais que je remerciais beaucoup le pasteur Schmid parce que vraiment cet exposé nous apprend beaucoup de choses. Nous avions pu déjà l'entendre une fois, mais c'était bon de vous entendre une deuxième fois avec effectivement tout cet historique que je ne savais pas, je ne connaissais pas, même si effectivement dans des lectures, cette proximité pour nous juifs du monde protestant, c'est magnifique. Alors, je pense que quelques amis ici, quand nous avons l'occasion de participer à des cultes protestants, lorsque nous rencontrons, on vit cette proximité. En tant que juif, en tout cas, on sent vraiment cette fraternité. Et sans jamais d'exclusion, sans jamais se sentir dans l'obligation de rentrer vraiment, d'être converti, je crois que ça vous l'avez dit un petit peu, c'est le respect. Voilà, je voulais vous remercier de tout cela et je sais que peut-être c'est le monde calviniste qui est ainsi. J'ai cru comprendre que peut-être pas tous les protestants, puisque tout le monde n'adhère pas. Voilà, ouais, très bien.
C'est une manière de lancer la discussion peut-être. Oui, effectivement, bon, c'est une précision que j'ai apportée. Je crois que... c'est probable, ce que je vous ai exposé ce soir, de quelques points comme ça, d'esquisse de la théologie de Calvin, ce sont probablement les points où Calvin se situe le plus loin de Luther. Parce que par certains côtés, Calvin retrouve des affirmations qui sont celles de Luther, il dépend de la théologie de Luther, mais pas là-dessus. Et on sait que Luther, n'est-ce pas, jeune, avait, dans un premier temps, Luther espérait que les juifs allaient se convertir à sa réforme. Alors il a, Luther jeune, a combattu un certain nombre de préjugés, et puis il semble qu'il y ait eu une déception chez lui, et à la fin de deuxième Luther, à la fin de la deuxième partie de sa vie, il s'est laissé alors à des écrits qui sont aujourd'hui quand même très embarrassants pour nous, parce que ce sont des écrits antisémites, il faut malheureusement le dire, mais c'est vrai. Et au fond, dans la théologie luthérienne, il y a une approche du Premier Testament qui est totalement différente de celle de Calvin, et notamment le point autour de la loi, qui est tellement central, évidemment. Pour Luther, bien sûr, les deux choses sont complètement antithétiques. On vit sous le règne de la grâce, de la loi, c'est de la malédiction, c'est fini. C'est évidemment, vous l'avez compris, pas du tout le cas chez Calvin. Alors ça fait une différence importante. On ne peut pas tout attribuer à la théologie. Il y a aussi tout ce que j'ai rajouté de l'expérience minoritaire parce qu'au fond, le calvinisme c'est une réforme ratée. Calvin fait la réforme à Genève, il détestait Genève, il ne pouvait pas s'y voir. Chaque fois qu'il peut dans un sermon se plaindre de cette ville, c'est vraiment pour lui c'est le coin oublié de la création du monde. Vraiment, les Genevois sont pires que tout. C'est vrai que les Genevois le lui rendaient bien puisqu'ils appelaient leur chien Calvin, donc il y avait une ambiance épouvantable. Pourquoi ? Parce que Calvin se sent en exil, c'est un homme en exil, et il regarde vers la France. Et dans l'institution chrétienne, il y a une très belle préface qui est adressée à François Ier, en tout cas les premières années, Calvin a entretenu l'espoir que François Ier se convertirait, que donc évidemment on convertirait ensuite le royaume un peu de force, parce que ça c'était aussi son idée, hein. Il fallait que l'État soit au service des l'Église, pas l'inverse, mais quand même le magistrat devait faire ce que décidait l'Église. Ça c'est une idée qui remonte au Moyen-Âge et avec laquelle il ne coupe pas. Mais toujours est-il que font Calvin, c'est une réforme ratée. Et en France, la réforme est bloquée. Il y a des guerres incessantes, 8 vagues successives de guerres de religion à partir du massacre de Vassy. C'est un désastre. Alors, il y a l'édit de Nantes, bien sûr, qui c'est pas formidable, mais c'est quand même, ça arrête la guerre et ça permet aux gens de vivre en paix, ce qui est déjà pas si mal. Voilà, alors que pour Luther, c'est autre chose. Luther, c'est vraiment c'est la victoire de la réforme en Allemagne. Luther a les princes avec lui. C'est ça la différence. Hein. Calvin n'a pas les princes avec lui. Et Luther, oui. Et donc, il y a évidemment, dans le calvinisme, d'un côté... on pourrait dire aussi qu'avec la double prédestination, c'est un peu élitaire, quelque part. Hein. On resserre un peu les rangs. Il y a des contradictions, comme ça. Mais voilà, donc ça c'est un point important. Alors, bien entendu, on ne va pas imputer tous les malheurs à Luther, mais il y a dans la pensée de Luther cette difficulté qui est réelle, où Luther appartient au fond à ce qui est dit dans ce livre sur l'antisémitisme chrétien incontestablement.
C'était juste pour compléter justement sur ces églises dites calvinistes aujourd'hui face aux juifs. Voilà. Juste pour dire quand même que là aussi, il y a aujourd'hui beaucoup de disparités. Nos églises, je pense autant l'église réformée de France que l'église protestante de Genève se reconnaissent dans cette pensée de Calvin, mais ce n'est pas le cas de toutes les églises qui se disent calvinistes aujourd'hui et qui, pour certaines, gardent cette idée aussi de conversion très forte vis-à-vis des juifs, mais vis-à-vis aussi de toutes les autres religions. Je crois que c'est important peut-être de... Voilà.
Merci. C'est la raison pour laquelle je me suis arrêté à la guerre. Je n'ai pas été plus loin. Parce que je pense qu'à partir, au fond, de la création de l'État d'Israël, les cartes sont brouillées. Et aujourd'hui... je ne suis pas certain que la perception dont je vous parle soit si répandue que ça dans mon propre milieu. D'abord parce que, comme le dit ma collègue, nos églises sont devenues perméables à toutes sortes d'influences. Elles se disent calvinistes, mais au fond, est-ce qu'elles en savent quelque chose vraiment? Ça resterait à discuter. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus complexes. Si je pense par exemple au Conseil œcuménique des Églises, il est tout ce que vous voudrez sur calvinisme, c'est-à-dire pas de problème. Bon, maintenant qu'il est encore aujourd'hui, alors j'espère que peut-être cette année a permis aux gens de le redécouvrir, de le relire, de se replonger dans les textes. Ça c'est tout à fait exact. Alors oui, il y a ces mouvements de conversion très forts, je sais que, bon, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la politique s'en est mêlée, quoi. Voilà. Et quand la politique s'en mêle, c'est jamais bon.
D'autres interventions, questions, remarques?
Oh, ma question sera assez simple. On a l'impression que la communauté protestante est restée assez très pudique et humble par rapport à une attitude assez glorieuse, enfin tout à fait louable pendant la guerre. Comment explique-t-on je trouve qu'il y a peu de paroisses ou peu de responsables, peu d'historiens qui reviennent sur ces belles pages d'histoire de l'attitude des responsables protestants pendant le régime de Vichy. C'est quand même une résistance. La fédération protestante avait pris position contre un certain nombre de toutes les lois de Vichy. On a l'impression que ça ne ressort pas beaucoup. On n'ose pas trop parler de ces belles pages. Alors, est-ce que c'est un excès de modestie ou pas? Comment on pourrait expliquer cette pudeur de cette résistance qui était très minoritaire à ce moment-là, en 40, 41, 42, de l'Église réformée, au moment de la mise en place du régime de Vichy. Et on en parle peu, finalement, de ces belles pages. Est-ce que ce n'est pas une humilité un peu excessive ?
C'est pas très simple, en fait, de répondre à cette question. Peut-être y a-t-il une humilité excessive ? On nous dit souvent qu'on n'aime pas trop être visible. Bon, quand même, du point de vue des historiens, c'est des choses qui sont connues. Enfin, on trouve des ouvrages là-dessus, c'est bien référencé. Je pense qu'il y a une chose, c'est que d'abord, deux réponses. D'abord, peut-être réponse théologique. Dans le protestantisme, on ne se glorifie pas de ses œuvres. On a fait ce qu'on a pu, qui de toute façon était en dessous de ce qu'on devait faire. De toute façon, ce qu'on a fait était pécheur. Voilà, mais la crainte de Dieu chez Calvin, c'est ça. On n'a pas à se glorifier de ses œuvres, on n'a pas une justice propre, on ne va pas se sauver par nos mérites. Et d'ailleurs, peut-être vous avez vu ce film de Pierre Sauvage qui s'appelle Les armes de l'esprit, qui est donc le documentaire qu'un enfant qui avait été au Chambon-sur-Lignon est revenu il y a quelques années après, et il a fait un documentaire sur les habitants du Chambon. Et quand on leur demande, mais. Pourquoi vous avez fait ça ? Oh, ben parce qu'il fallait le faire, c'était normal. C'est tout. Je ne vais pas poser la question. On l'a fait parce que c'était normal. Il y a ça. Donc il y a cette réponse théologique. Puis il y a peut-être quand même aussi un peu de pudeur. Parce que bien sûr, je veux dire, les réseaux, ça représentait quoi ? Pas grand monde. Pas grand monde. D'abord, ils n'étaient pas les seuls. Bien merci, il y a eu des justes ailleurs, heureusement. Dans toutes les familles religieuses et dans les familles non religieuses, il y en a quand même eu, si ne pas désespérer complètement de l'humanité. Mais devant l'ampleur de la catastrophe, est-ce que vraiment on a envie de se glorifier de ça ? Je ne crois pas. La catastrophe, elle reste, et elle est tellement importante que, voilà. Mais fondamentalement, je pense, voilà, on ne se glorifie pas. Alors, mais si on veut le savoir, on peut le savoir quand même. Il y a eu des historiens là-dessus, et les choses sont quand même bien connues, et c'est vrai que. C'est là que la Cimade a commencé, hein, dans les camps, le camp de Gurs, les camps qui étaient dans les Pyrénées orientales, etc. C'est là qu'ils ont commencé le travail, avec Madeleine Barrault, qui se poursuit aujourd'hui, tout à fait. C'est vrai. Mais faut-il s'en glorifier ? On fait ce qu'on a à faire, et puis voilà, on marche dans la voie de la loi. On essaye de marcher dans la voie de la loi. De toute façon, on est toujours en dessous.
Jeannette, vous voulez dire quelque chose à ce propos ? Jeannette est notre médaillée des justes de longue date et elle connaît vraiment, en France en tout cas, très bien et en Suisse. Donc je voulais simplement dire aussi que chaque fois que j'assiste à une remise de médaille des justes, enfin maintenant ça ralentit, mais la plupart du temps, que ce soit des chrétiens, que ce soit des non-chrétiens, que ce soit des gens athées même, la réponse à la question est toujours la même, mais nous l'avons fait parce que nous devions le faire, et ce n'est pas héroïque. Et moi, je répète toujours, je ne suis pas une héroïne, j'ai fait mon devoir, c'est tout. Et ce sont les réponses qu'on entend la plupart du temps, dans tous les milieux que j'ai fréquentés à ce titre-là. Et je vois aussi, effectivement, j'ai rencontré Madeleine Barrault, et ce que nous disions un certain jour où j'étais avec elle, c'est... Le fait que le travail se poursuit d'une autre manière aujourd'hui, c'est à partir de là que des mouvements se sont dressés, se sont élevés, et que la lutte continue d'une autre manière. Ce combat persévère à travers ces prises de conscience que nous avons, qui ont été déclenchées en nous lors de ces événements tragiques, quoi. Je voulais simplement dire aussi que j'ai parcouru à pied toutes les Cévennes et que je suis toujours très émue quand on parle des Cévennes, parce que quand je pense à ce qu'a vécu ce peuple, retranché dans ces hauts lieux de montagne où tout manquait, je trouve que ça a été une épopée. Je peux dire que c'est à la gloire de ce peuple protestant qui a résisté de cette manière, parce que c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il fallait qu'ils aient la foi. Il est vrai que...
Oui, propos des Cévennes, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est traditionnellement une terre de résistance. Avant les protestants, il y a eu les cathares, pas très loin, dans le Languedoc, etc. C'est une région de montagne, un peu comme le Jura d'ailleurs. C'est des régions où on se refuge, où on se réfugie comme ça. Mais vous avez raison, au fond, véritablement, c'est un soulèvement contre un acte d'intolérance absolue. La révocation de l'édit de Nantes, c'est un acte de tyrannie absolue. Voilà. Et évidemment, c'est une prise de conscience, etc. Et d'ailleurs, probablement que ça a, paradoxalement, ça a fortifié le protestantisme plus que ça ne l'a affaibli par beaucoup de côtés. Spirituellement, en tout cas, évidemment, ça lui a donné. Il y a de très belles pages d'André Chanson là-dessus. Oui. Roland Puy, celui qui était à Lyon. Oui. Bien sûr. Oui. Et André Chanson, à la fin de sa vie, donc André Chanson, dont ses collègues disaient ce grand protestant qui ne croit même pas en Dieu, jolie définition, a beaucoup écrit, comme vous le savez, sur cette période, et il a écrit un très joli petit livre à la fin de sa vie qui s'appelle « Il faut vivre vieux », si on peut, et dans lequel il revient là-dessus en disant que finalement, il se tient entre la foi et l'agnosticisme, c'est pas très bien, mais que ce dont il est sûr, c'est que ses ancêtres, à ce moment-là, dans les Cévennes, nous en parlons, ils portaient à ce moment-là sur leurs épaules la question de la liberté. Et que rien que pour ça. Voilà. Et voilà. Et alors, ça. Alors, quels seront les combats de demain? Pardon? De toute manière.
Il y a vraiment beaucoup de points communs avec le judaïsme, en tout cas avec le monde juif. Le judaïsme, c'est autre chose, on est dans l'histoire de la loi, mais là, le respect, puis surtout l'apprentissage, et pouvoir presque enseigner la loi. Calvin l'avait enseignée, puisque il la respectait. Mais pour en revenir, moi, j'ai eu l'occasion d'aller au musée du désert et passer là-bas ces belles fêtes. J'étais très, très touchée de visiter, bien sûr, et j'ai eu le sentiment que c'était semblable au peuple juif, et par les images, par ce qui a été raconté. J'étais très touchée, j'ai eu un moment de grande empathie et de me dire, mais vraiment, le malheur reste le malheur et le malheur rapproche. Et là aussi, j'ai senti, pour une foi que chacun porte, on peut être détruit. Et c'est pas on, c'est deux peuples différents, ben oui, les protestants, les juifs, et là j'avais vraiment ressenti des choses très fortes et beaucoup d'empathie et de compassion, des choses semblables. On comprend qu'on puisse être proche et même à ce moment-là se rapprocher encore plus les uns des autres. Oui.
Moi, je voulais vous remercier profondément parce que c'était vraiment pour moi un moment de pur bonheur. Bon, je vous ai écouté souvent à Genève lorsque vous remplacez le grand rabbin Gage, pas remplacé, mais lorsque vous remplacez le temps d'une conférence. Ce qui m'a profondément touché, c'est Calvin qui nous rappelle notre situation de dette envers les Juifs. Et je pense qu'on ne le dira jamais assez. Et puis, vous avez fait, à mes yeux, un travail remarquable de clarification. Clarification par rapport à notre rapport à la loi, avec des termes extrêmement forts, par rapport à Paul. Les passages, j'ai noté l'heure, parce que je vais le réécouter mot à mot. Invitation à tirer Paul. Donc, revisiter les textes de Paul pour ce qui concerne son rapport à la loi. J'ai entendu une revalorisation de la loi, parfois si dénigrée, si décriée, alors que les travaux rabbiniques montrent l'importance fondamentale de la loi. Il le montre de manière tout à fait lumineuse. Et puis, travail de clarification, moi je veux dire, je suis profondément heureux ce soir, parce que je suis à la fois, je suis protestant, je suis heureux d'être protestant, mais je me sens totalement éloigné de certaines églises protestantes, et même de certains membres des églises calvinistes, et j'étais vraiment très heureux de ce qu'a dit Charlotte tout à l'heure. Parce que vous avez vraiment remarquablement décrit ce à quoi j'adhère, je ne dis pas du tout que c'est une référence, mais en tout cas, moi je m'y retrouve pleinement, et en même temps, évoqué, vous l'avez évoqué, peut-être pour ne pas blesser, mais Charlotte a précisé, là encore, tout à l'heure, tout ça avec quoi, moi je me sens totalement étranger au sein de certaines églises protestantes. Je ne dis pas du tout que les calvinistes ont raison. On a balayé devant notre porte et vous avez parlé je t'ai parlé tout à l'heure, mais de Servet, on pourrait parler de Castellon, etc. Donc il faut qu'on balaye devant notre porte. Mais en tout cas, merci infiniment parce que pour moi c'est profondément clair.
Oui, alors vous parlez de l'enseignement de la loi. Peut-être ça va vous amuser, ça peut nous amuser aujourd'hui, ça amusait peut-être pas les gens à l'époque. Vous avez tout à fait raison. Donc, Calvin, au fond, est un docteur de la loi, finalement. On pourrait dire ça. Hein. Moi, je donne parfois cette définition de Calvin, je prends mes responsabilités, mais je dis que pour moi, Calvin est le plus grand talmudiste chrétien. C'est exactement comme ça qu'il se présente. Alors, il faut quand même être conscient du fait que la loi, il ne la maîtrise pas aussi bien que les rabbins, quand même. Soyons modestes, parce que quand il a accès aux commentaires juifs, ça va. Je parlais tout à l'heure de la question du prêt à intérêt. Là, on voit que parce qu'il a eu accès à des textes, et vous savez, l'hébreu talmudique, c'est vraiment difficile. Certainement qu'il ne le savait pas. C'était pas un mauvais hébraïsant, puisqu'il prêche le texte original en main, hein, il traduit à mesure de ses besoins. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pasteurs qui font ça aujourd'hui. Mais l'hébreu talmudique, l'hébreu de Rashi, le grand maître champenois, alors ça, c'est encore une autre paire de manches. Donc il est tributaire de commentaires, de renvois, de traductions, de choses comme ça. Et lorsqu'il a accès aux commentaires juifs, ça va. Mais parfois, il n'a pas accès aux commentaires juifs. Alors, ça donne des choses assez curieuses. Par exemple, dans le livre du Deutéronome, je crois que ça doit être 27, il y a le fameux passage dans lequel il est dit que l'enfant qui lèvera la main sur ses parents devra être mis à mort. Pas d'abord de l'enfant rebelle. Alors, dans la tradition juive, classiquement, au fond, c'est présenté comme une sorte d'exercice d'interprétation pour débutants. Et on s'aperçoit que les maîtres ont mis deux conditions. On dit d'accord, mais il y a deux conditions préalables. La première, c'est qu'il faut que les parents de l'enfant en question puissent établir avec une absolue certitude qu'ils n'ont jamais fait la moindre faute dans l'éducation de l'enfant. Et ensuite, il faut qu'on puisse faire la liste exacte de tous les délits futurs avec le nom et l'adresse des victimes, à peu près, c'est ça. Donc vous rendez compte que du coup, c'est inapplicable, et ça n'a jamais été appliqué. Le problème, c'est que Calvin n'a pas eu accès à ça. Et lui, il trouve que c'est très bien. Et il fait un projet de loi pour dire que, eh bien, maintenant, les enfants qui parleront mal contre leurs parents vont les mettre à mort, c'est Dieu qui a parlé. Vous imaginez la tête des magistrats genevois. Alors, tout n'est pas passé, mais il le dit. Donc il part en vrille en quelque sorte, il y a une forme de naïveté aussi chez lui, tellement, mais c'est un juriste, il est passionné par la loi. Hein? Il est passionné par la loi. Et alors, un autre commentaire qui est aussi assez étonnant, vous savez, chapitre 8 de l'évangile de Jean, il y a le fameux récit de la femme adultère et que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ça, c'est un des textes bibliques qu'on connaît à peu près tous par cœur. Bien. Classiquement, dans la tradition chrétienne, de saint Augustin à Luther, on se laisse aller dans le symbolisme facile, c'est-à-dire que, eh bien, il y a la loi qui est dépassée, maintenant c'est le règne de la grâce, etc., etc. Il faut relire le commentaire de Calvin. Ah, c'est un régal. D'abord, il commence à se poser la question de savoir si le tribunal est régulièrement constitué. Pour lui, c'est la clé. Et il dit que finalement, on n'a pas de raison d'en douter. On a affaire à un vrai tribunal. Donc, le vrai tribunal a appliqué une sentence. De quel droit Jésus vient-il troubler la sentence? Et, mine de rien, il donne tort à Jésus, dans ce texte-là, en disant, oui, il en a profité pour faire une prédication, mais sous-entendu, si on laisse comme ça les gens prêcher n'importe quand, on ne va plus pouvoir appliquer les sentences. C'est pas à Genève qu'on aurait dit ça. C'est très étonnant de dire ça. Il a parfois une liberté avec les textes. C'est pas du tout un fondamentaliste, absolument pas. C'est quelqu'un qui a une vision, et il ancre la Bible dans sa vision. C'est un esprit terriblement, terriblement synthétique. Mais c'est vrai que la loi, pour lui, c'est absolument fondamental. Et c'est une particularité, évidemment, qui fait que quand il lit Paul, eh bien, quand même, il a... Voilà. Et une autre chose qui est très intéressante aussi, c'est de relire la définition, et ça, je le sais depuis tout récemment, je suis tombé dessus il y a quelques jours, au début de l'Épître aux Romains, il se lance dans une longue définition, qu'est-ce qu'un juif? C'est pas une question facile. Quelle définition donne-t-il? Alors, il commence par expliquer que, selon Flavius Joseph, c'est un nom qui est apparu au moment de la guerre des Maccabées, à peu près. Bon. Alors, il dit, oui, ça, c'est l'explication classique, mais j'ai une autre suggestion. Et il suggère qu'en fait, suite au trouble des Maccabées, c'est le moment où les Juifs étaient dans un grand trouble. Et le problème qu'ils ont eu, dit-il, c'est qu'ils n'ont plus fait attention à leur lignage parce qu'il n'y avait plus de police. Il n'y avait plus de gendarmerie, donc on ne savait plus qui était le fils de qui venait de qui. Ce qui fait qu'à un moment donné, ils se sont renommés juifs, et en se renommant juifs, ben peut-être qu'ils ont agrégé des gens qui ne l'étaient pas, et de là viennent tous les problèmes. C'est très étonnant. Il y a un souci du lignage, parce que c'est un juriste, n'est-ce pas ? La pure semence d'Abraham. Hein, il y a un peu chez Calvin un fantasme de la pureté. Là, moi, je prendrai mes distances. Hein, il y a aussi des points sombres, hein, et quand même, il faut pas rêver. On est quand même dans une pensée qui n'admet pas d'être contredite. Alors, elle nous amuse ou elle nous passionne, elle nous touche aujourd'hui. Mais ce texte sur le lignage n'est pas très clair. Je reconnais qu'il n'est pas très clair. Il faut lire un peu entre les lignes pour voir ce qu'il veut dire, voir les renvois quand il revient. Et au fond, on comprend que pour lui, il y a la vraie semence d'Abraham, celle dont on peut remonter par le lignage d'une façon indubitable. Là, cela, c'est bon. Le reste, on ne sait pas trop. Et il a l'air de dire qu'au fond, Paul, c'est à ces juifs dont on ne sait pas trop qu'il s'adresse. Vous voyez ? Ce qui lui permet de sauver le reste. Mais c'est quand même une lecture très, très, presque rabbinique. Enfin, on n'est pas très loin. C'est très étonnant de dire ces choses-là. Alors, fondamentalement, je ne suis pas très d'accord, au fond, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Mais voilà, la réflexion du personnage. Et ça montre que peut-être c'est intéressant de faire de la théologie quand on vient d'aller. Je crois que la grande chance de Calvin, à part son génie, c'est d'avoir été un juriste.
Simplement, je reviens un petit peu sur ce que vous avez cité tout à l'heure. Vous avez parlé de Pierre Sauvage, que je connais bien, qui habite New York, d'ailleurs, dont ce n'est pas le nom. Et c'est lui qui a donc fait ce film, Les armes de l'esprit, qui d'ailleurs est à revoir. Je conseille à ceux qui ont l'occasion de le revoir, de ne pas le manquer. Et il me téléphone quelquefois d'Amérique pour me citer, par exemple, pour me dire, je viens à Paris, on va reprojeter notre film, on va discuter avec des étudiants ou autre. Et il me disait, il est né sur le plateau, à Chambord. Et il me dit, je n'avais pas du tout conscience de mon appartenance au judaïsme, parce que ma famille ne se sentait pas même concernée. Et depuis, évidemment, il a étudié la loi, comme vous le dites, il a étudié son judaïsme, et il a un rayonnement sur ce plan-là, qui a une importance extrême, partout autour de lui, mais surtout dans les milieux universitaires, les milieux étudiants. Et il vient assez souvent pour cela. C'est une chose que je tenais à vous dire parce que, vous voyez, de ce malheur, cette période terrible et tragique, sont sorties quand même des suites plus heureuses. Merci, Jeannette. Vous avez parlé de la théorie de la substitution. Ça m'a toujours choquée, et encore plus aujourd'hui, parce que, si j'ai bien compris, Paul dit, et puis après Paul, eh bien, les... Oui, mais on le dit aussi dans... Quand on lit ça en épître, dans les messes, ça me gêne. Ça voudrait dire que l'Église, quoi, les chrétiens, ont remplacé les Juifs. Que Dieu a rejeté les Juifs et il a été remplacé. Donc, ça veut dire quoi, les Juifs, on en fait quoi, là? Et dans notre amitié judéo-chrétienne, mais les Juifs, ils sentent quoi? Ils sont remplacés par les chrétiens? Alors, est-ce que ça pourra bientôt être remis en cause par les hautes autorités, par l'Église, Rome, et tout ce que vous voulez? Oui, mais ça... Bon, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire, parce que ça m'a retouché aujourd'hui, puis je me suis dit, il faut que je...
Ah, mais vous avez tout à fait raison, c'est le grand problème, n'est-ce pas? Je crois qu'alors, quand même, aujourd'hui, sur ce plan-là, les différentes familles chrétiennes ont fait pas mal de chemin. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup, beaucoup moins affirmatif, beaucoup plus prudent dans ce genre de choses. Il y a eu des vraies avancées. Paul, oui, comme vous dites, c'est suggéré. On ne peut pas dire vraiment que dans le Nouveau Testament, c'est dit. Mais quand même, et en tout cas c'est la patristique, bien sûr, une certaine patristique, alors va le dire sans hésiter, bien sûr. Et vous dites, dans cette théorie, les Juifs, on en fait quoi? Eh bien, la réponse est claire, on n'en veut plus, c'est tout, il n'y a plus de place pour eux. C'est bien ça le problème. C'est une erreur de lecture, évidemment. Mais alors encore une fois, faut bien m'entendre, quand Calvin rejette la substitution, mais en même temps, il trouve quand même que les Juifs devraient quand même faire le pas. Vous voyez, il y a les deux. Hein, il reste un homme de son temps. Il ne faut pas non plus projeter sur lui une idée moderne. Hein, il trouve quand même qu'il pourrait faire le pas dans sa confédération. Comme il l'imagine. Voilà, il y a une forme aussi. Hein? Mais il y a aussi ce fait, n'est-ce pas, qu'il y a une lettre de Calvin, petit texte qui s'appelle Les mensonges des Juifs. Alors quand on voit ça, j'ai lu le texte. Donc c'est sur les points doctrinaux, c'est les mensonges par rapport, oui, mais. Et notamment, il se bat contre. Les rabbins qui disent voilà pour telle et telle raison pourquoi le Christ n'est pas le Messie, c'est des mensonges, je vous dis pourquoi. C'est ça que ça veut dire. Mais au fond, il dit surtout, mais ils ont une tête vraiment dure, ces gens-là. Un peuple indomptable, hein, ça vient souvent. La Nicrède, oui, c'est ça. Mais il ne faut jamais oublier que quand Calvin critique quelqu'un, au fond, et surtout s'il y a un reproche ou s'il y a un mot un peu vif qui est fait à un moment donné envers les Juifs, parce que ça arrive aussi dans tout ce qu'il a écrit, c'est toujours dans son idée que ce sont les êtres humains, pas les Juifs en tant que tels, mais c'est les êtres humains devant Dieu. Et ce sont toujours nos miroirs. Donc quelque part, on est encore pire, quoi. Et en tout cas, il n'y a pas pire que les jeunes voix, ça c'est sûr. Donc, je vous dis ça parce que peut-être... Vous allez vous précipiter sur un texte de Calvin, puis à propos du juif, vous dites, là quand même il y va un peu raide, c'est pas tout à fait ce qu'il nous a dit. Il y a un langage de l'époque. Mais ce qui est important, c'est les prises de position de fond, hein, donc, sur lesquelles aujourd'hui on peut construire le reste de la rhétorique. Et puis, je veux dire, si vous regardez la littérature de polémique de Calvin, il a insulté absolument tout le monde. Les anabaptistes, les catholiques, on n'en parle pas. Les luthériens, on n'entendait pas du tout bien avec les luthériens. Les autres églises de Suisse, ça va. Mais au fond, tous ces adversaires théologiques, les libertins spirituels, tous ces gens-là, ils s'en prennent alors avec une violence. Voilà. Et puis quand ils leur mettent la main dessus, Mais c'est pas sûr qu'il l'aurait fait avec Jésus. Bien sûr. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'au fond, il a placé des premières pierres qui, aujourd'hui, permettent de sortir. Mais moi, je pense que la théologie évolue, nos lectures évoluent. On ne peut plus lire la Bible comme on la lisait à l'époque de Calvin. C'est plus possible.
Merci. Moi, je trouve que avec sa façon parfois naïve de poser des questions, Marie-Lou, une fois de plus, a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. Parce que moi, ce que j'attends des responsables au plus haut niveau, et je trouve que c'est pas suffisamment fait, c'est qu'il y ait une remise en cause de certaines lectures. Quand on entend encore des prédications, y compris dans des églises réformées, alors je ne parle pas d'autres églises, quand on parle des pharisiens, par exemple, quand on parle du pharisaïsme, dans certaines homélies et dans certaines prédications, on utilise ce mot d'une manière péjorative, et moi je voudrais bien quand même qu'au plus haut niveau des chrétiens, parce que là on est quand même dans un milieu particulier, l'amitié judéo-chrétienne, qui n'est pas représentative du christianisme, de la manière de fonctionner du christianisme. Moi, je peux vous dire, je suis originaire de Champs-sur-Saône, je vais à Champs-sur-Saône, mais quand je ne peux pas aller au temple, je vais à d'autres endroits, et il y a des trucs qui sont quand même... sont quand même croquignolesques. Hein. Et moi, je voudrais bien qu'il y ait, au plus haut niveau, qu'on dise, non, il y a des choses qui ne sont plus possibles. Et je pense notamment, et d'ailleurs, Armand Abbé Cassis nous a interpellé fortement par rapport aux pharisiens.
On le fait, Norbert, mais c'est très long. On le fait dans la mesure où même l'amitié judéo-chrétienne, déjà nous, à notre place, ça c'est l'objectif, d'apprendre à se connaître, se respecter, de pouvoir parler aux autres autour de nous. Il y a cela aussi. C'est ça l'amitié judéo-chrétienne. Ce que disait, même si la sagesse vient d'en haut, il faut aussi la mettre là, dans le quotidien. Ce qui est sûr, qu'elle rayonne. C'est un peu ce qui était lu tout à l'heure. Mais il est vrai que ça bouge. Mais c'est très long, très difficile. On fait 3 pas en avant, il y en a 2 en arrière. Avec l'amitié judéo-chrétienne, c'est ce qui se passe, on est en train de revoir les mots, toute une sorte de bibliographie de ce qui a été dit, de ce que l'on peut faire. C'est en train, on continue à faire ça à des niveaux peut-être un petit peu plus que dans nos groupes. Mais déjà ce que nous faisons dans nos groupes, c'est déjà très positif pour que justement nous existions tous. Et que nous ayons tous notre place dans une reconnaissance. Je vais passer d'abord à...
Évidemment, c'est très important ce que vous dites, mais ça me rappelle une anecdote qui m'était arrivée justement quand je vivais au Maroc. J'avais un ami, on s'est un peu perdu de vue depuis, qui était juif, il doit toujours l'être, et un jour, on était assez liés. Il a pris un Nouveau Testament par curiosité. Il n'avait jamais lu le Nouveau Testament, il s'est plongé dans le Nouveau Testament. Puis il est tombé dessus, il était dans une colère terrible. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous racontez sur nous? C'est quoi ces histoires? Et là j'ai pris conscience d'une chose, c'est que l'antijudaïsme dont vous parliez, il est déjà dans le Nouveau Testament. Parce qu'on est dans une période de divorce. Le Nouveau Testament est le produit d'un divorce. Il y a un divorce, ça ne se passe pas bien. Hein? Ça ne se passe pas bien, et donc il y a des invectives, comme dans tous les divorces, hein, on se traite de noms d'oiseaux, on dit des choses, surtout quand on est dans le monde de la Méditerranée, ça part vite, et ça s'écrit, et ensuite, alors évidemment, quand les chrétiens prennent le pouvoir, ça tourne à la catastrophe. Ça, c'est certain. Et aujourd'hui, on doit faire tout à fait cette différence. Maintenant, pour parler de Paul, qui porte en lui ça, puisque lui-même pharisien, ce dont il est très fier d'ailleurs, hein, il est très fier de ça, hein, il ne renie pas ça, il passe de l'autre côté, avec armes et bagages, qui déjà n'est pas une situation très simple, je trouve que l'épître aux Romains, c'est vraiment l'épître de la rupture. On sent cet homme, par moments, par exemple dans le chapitre 11, complètement dérouté par l'échec de sa prédication, parce qu'il a dû aller, et puis bon, évidemment, il persécutait avant, il était, puis maintenant il vient de prêcher, ça ne va pas cette histoire, moi je l'aurais fait, hein, je leur ai dit, écoute mon ami, à d'autres, ça c'est clair. Et alors on le sent dans un plein désarroi, et je crois qu'il y a, c'est une épique du scrupule, quoi, c'est le scrupule et le désarroi personnel. Il faut aussi dire les choses sous cet angle-là, mais on ne peut plus reporter aujourd'hui ces choses-là qui sont contextuelles. Et là, c'est vrai, vous avez raison. C'est, normalement, chez nous, en tout cas, c'est une question de théologie, c'est-à-dire que les pasteurs ont fait des études en théologie. Dans leur paroisse, ils groupent les fidèles autour des textes de l'Écriture, et c'est là que ça passe. Et c'est évidemment très important. Mais il peut aussi y avoir des gens, c'est passé dans le langage courant, on ne fait même pas attention. Pharisaïsme, tac, ça passe comme ça. Les pharisiens, c'est des gens très bien, c'est eux qui ont sauvé le judaïsme. Sans les pharisiens, ils n'existeraient plus. Voilà, mais ça, on a oublié, on ne le sait pas. Tout l'évangile de Matthieu est écrit au moment du synode de Yavné. Donc, on est en pleine polémique. Ça tire à vue. Probablement en face aussi, quand même. Hein, faut dire la vérité. Je veux dire, dans le Talmud, il y avait des choses qui n'étaient pas très, très agréables pour les chrétiens. Mais on est dans une querelle de famille, dans un divorce. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'écrit d'un divorce? On a les paroles de Jésus, quand même.
Bavarde ce soir, excusez-moi, mais c'est vrai, c'est un sujet qui me tient très à cœur depuis longtemps. Une année, il y a au moins 20 ans, j'ai repris dans toutes les lectures des messes dimanche les termes qui pouvaient blesser les juifs, et il y en avait beaucoup, et j'ai envoyé ça au Vatican. Alors on m'a répondu, j'avais envoyé sous couvert d'un évêque, on ne pouvait pas changer l'écriture. Bon, ça c'est une chose, mais il faut expliquer, il faut interpréter, il faut. Et alors, lors d'une cérémonie officielle, où était le président de la communauté juive, je m'autorise à le dire maintenant, c'est connu, il y a une lecture telle que lui, il était dans les officiels et autres, s'il n'avait pas été là, il ressortait, parce qu'il n'a pas admis si c'était lu, et il aurait fallu au moins commenter, faire un commentaire, c'est ça. On n'a pas pensé que dans l'assistance, il y avait des gens qui étaient sensibilisés au point d'en être blessés. Maintenant, tout ça, ça s'apaise quand même. Mais vous voyez, c'est à partir de toutes ces choses-là qu'il faut encore agir et qu'on peut travailler.
Alors, peut-être, Jean-Albert, excuse-moi, comme déjà il y a une intervention.
Oui, alors vous avez, on était en train de parler, donc, la difficulté donc, de ce rapprochement entre les communautés religieuses. Et tout à l'heure, vous avez évoqué, avant le début de la conférence, donc, votre amitié et le fait qu'au Maroc, vous avez vécu ça. Et la question que je me pose, parce que bon, on l'entend pour le Maroc, on l'entend pour Alexandrie, pour Antioche, pour Damas, il y a à peu près un siècle, hein, on parle de cette harmonie dans laquelle vivaient les communautés religieuses. Alors, est-ce que c'est, on le dit avec une sorte de nostalgie, est-ce que ça a un vrai fond de vérité? Et si c'est un fond de vérité, est-ce que vous avez une explication à proposer selon la, enfin, pour expliquer comment ça pouvait se passer et pourquoi aujourd'hui on en est arrivé donc à la situation qu'on connaît.
Moi je dirais que il y a toujours des moments d'harmonie dans le milieu qui est le nôtre, qui n'est pas forcément dans les petits réseaux que chaque individu sur cette terre peut avoir, et qui retentissent pas forcément des grands conflits de la planète. Mais vous, bien sûr, d'abord j'en parle avec nostalgie parce que j'étais jeune. Mais là, évidemment, je suis un peu nostalgique. J'avais ma vie devant moi, elle commence à être derrière moi, c'est moins intéressant. Ça, c'est un premier point. Et donc, on a peut-être toujours tendance à trouver ça, que c'était les moments de l'éveil, de la découverte. Mais je me dis finalement, mes propres enfants qui ont vu défiler chez moi... et savent que des rabbins, des bouddhistes, enfin, ça circule dans tous les sens, probablement plus tard, ils auront cette image, une espèce de Genève idéalisée, où c'était formidable à cette époque-là. C'est quand même ce qu'on vit aussi. Donc voilà, c'est à un tout petit niveau, je l'agrandis pas, hein, je dis pas, je fais pas de mon expérience une vérité générale, même si le Maroc a quand même été, semble-t-il, un des pays du Maghreb dans lesquels les rapports ont été à peu près les plus calmes entre les communautés juives et musulmanes. Il faut quand même rappeler là, l'attitude du grand-père du roi actuel au moment des lois de Vichy. Il a quand même dit que les étoiles ne seraient pas portées au Maroc, et que c'était fini. Et parce que si les juifs la portaient, la famille royale la porterait, tout le monde la porterait. Voilà, c'est tout. Alors, et il faut savoir aussi que toujours actuellement, le Maroc reste officieusement, en tout cas dans le monde arabe, un des points de contact avec Israël. Ils ont toujours eu une attitude assez modérée. Alors, ils ne disent pas non plus trop fort parce qu'ils sont quand même dans le monde arabe, ils sont obligés d'être à l'unisson, mais en même temps, ils n'en rajoutent pas non plus, ils n'en font pas des tonnes. Donc voilà, alors j'avais un. Mais vous savez, des gens qui ont vécu en Algérie, quand j'entends le grand rabbin Guèpe, lui, exactement à mon âge, lui, il était en Algérie. Sauf erreur, il était à Constantine, je crois, hein, c'est originaire de Constantine. Il me rappelait cette chose, c'est tellement belle. Il me disait, il me racontait un jour que c'était évidemment, sa mère lui enseignait les prières, parce que je crois que son père était dans la police française, il m'avait dit, et sa mère lui enseignait les prières traditionnelles à lui, petit garçon, etc. Il les répétait. Et quand il les répétait de travers, c'était la Fatma, donc musulmane, qui travaillait chez eux, qui dit non, non, c'est faux, tu recommences, sa mère, elle ne t'a pas enseigné comme ça. C'est. Il y a quand même une proximité. On prend conscience du fait qu'on est très proche, en fait, par certains côtés. On est tous des monothéistes. Mais, ben c'est comme. C'est ça, c'est le problème du divorce. C'est aussi. C'est quand on est proche que les guerres sont les pires. Les pires guerres, elles sont fratricides. Les pires querelles, elles sont dans les familles. Et vraiment, si on revient à l'histoire du Nouveau Testament, c'est quand même au départ une histoire de famille. C'est une question interne. C'est d'abord des réflexions qui sont faites. Les gentils, ils arrivent un peu, voilà. Mais les premières communautés chrétiennes, celle de Paul, le premier public de Paul, ça a dû être le public de tous ces païens qui étaient attirés par le judaïsme et qui tournaient autour des synagogues. C'est pour ça qu'ils se rendent toujours dans les synagogues, dans les Actes des Apôtres, c'est toujours là qu'ils sont. Et au fond, ils, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait Paul? Paul, il a inventé un judaïsme sans la loi, plus facile, moins exigeant. Premier abord. Si on prend les choses au sérieux, c'est une autre question. Mais voilà. Et finalement, Calvin, aujourd'hui, je pense, dirait, je m'avance un peu, que le christianisme, c'est au fond un judaïsme pour les non-juifs. Voilà. Je pense qu'il dirait ça. On va dire ça. Voilà.
C'est si passionnant que je pense que pour être passionnant.
Je voulais revenir sur les changements peut-être accélérés. De prise de conscience de la théologie, des revers de cette tradition théologique que nous essayons de changer depuis 60 ans après la Shoah. Certainement, la démultiplication des espaces interreligieux devrait faciliter et interpeller l'ensemble des institutions religieuses en Europe, que ce soit pour l'Église orthodoxe, les catholiques, les protestants, les calvinistes, les luthériens. Toutes les associations, tous les espaces interreligieux devraient pouvoir, à tout moment, interpeller les institutions religieuses, surtout, notamment, dans le cadre de la formation, que ce soit pour la formation dans les séminaires, la formation des prêtres, dans les cursus universitaires pour la formation des pasteurs, aussi pour la formation permanente des laïcs, que ce soit les études bibliques, toutes sortes de formations. Je crois que nos instances interreligieuses, que ce soit l'association Racine et Source ou l'interreligieux, les amitiés interreligieuses, devraient avoir une capacité d'interpellation sur le plan œcuménique européen, pour demander à l'ensemble des églises en Europe de faire attention dans la formation théologique des futurs prêtres, des futurs prédicateurs, des futurs pasteurs. J'ai l'impression que quand même, nous avons une petite responsabilité, on devrait l'amplifier pour que nous puissions demander à tous les hauts responsables religieux européens, par rapport à l'avancée, par rapport à tous les travaux qui ont été faits depuis 60 ans dans le cadre de l'interreligieux, de l'œcuménisme et des relations judéo-chrétiennes, où en sommes-nous dans la formation demain des futurs prêtres, des futurs pasteurs, des futurs prédicateurs? J'ai l'impression que là, nous avons un axe important de travail pour faire évoluer les choses et pour faire changer les anciennes théologies meurtrières.
Vous avez raison, mais au niveau de la Suisse romande, qui est une situation que je connais un peu, je peux vous dire que largement ça se fait depuis longtemps. Moi, j'ai eu la chance d'avoir eu comme professeur d'Ancien Testament, comme c'est dit Robert Martin Achard, on l'appelait Rabbi Robi, n'est-ce pas, il nous initiait à la loi tout à fait, et il était tout à fait, il aurait tenu le même type de langage, je crois, que j'ai tenu aujourd'hui. Bon, lui considérait que, bon, maintenant, pour lui, le point important, c'était la discussion avec les musulmans. Parce que ça, c'est quelque chose dont on ne va pas pouvoir faire l'économie. Et là, il y a du travail. Hein. Ça va être compliqué. Mais je ne dis pas que ça doit pouvoir passer, mais de leur part aussi, on ne peut pas tout faire à la place des gens. Mais pour revenir aux universités, à l'Université théologique de Lausanne, il y a une chaire de judaïsme maintenant. Donc, je veux dire, pour nous, c'est intégré dans le cursus. Maintenant, comment est-ce que les gens ensuite intègrent ça? Parce que vous pouvez prendre quelqu'un, vous lui faites suivre des études, et au fond, il peut ensuite ne pas en être particulièrement marqué. Hein. On a ce problème, mais là, c'est en dehors des questions de judaïsme, c'est un autre problème. Mais on voit ce problème avec notamment la mouvance dite évangélique, où on a, comme partout ailleurs, pas mal d'étudiants qui viennent de ces communautés très, très basiques comme ça, qui partent du principe qu'elles vont faire leur théologie, c'est des couleuvres à avaler pendant quelques années, elles s'empressent d'oublier tout ce qu'elles ont appris pour retomber dans leur truc. Ça, c'est un problème qu'on a actuellement. C'est pas vrai tout le temps, non plus, partout, pas non plus exagéré. Mais je crois que les universitaires sont vraiment conscients de ça. Si vous prenez, enfin, l'autre soir, je vais parler de l'interprétation de la Bible de Calvin, je faisais ça en tandem avec Daniel Marguerin, qui est grand spécialiste du Nouveau Testament. On le voit souvent dans les films de prieurs, n'est-ce pas, il intervient régulièrement là-dedans, il est tout à fait... c'est une problématique quand même, c'est très parcouru. En tout cas, me semble-t-il, dans les universités, les formations que je connais, j'ai l'impression quand même dans pas mal de séminaires catholiques aussi. Il y a quand même des directives. Donc, il faut veiller à ce que ça se perde pas. Hein. C'est très important. Et surtout, il faut que ça donne naissance à Madame disait tout à l'heure, le véritable enjeu, c'est qu'il faut qu'on trouve de nouvelles interprétations. Le texte, on ne le changera pas. On ne peut pas avoir un Nouveau Testament expurgé, ce serait ridicule. Et de nouveau, je vais citer de nouveau le grand rabbin Goetz, qui nous dit qu'il faut se débrouiller avec Dieu en robe de chambre. Il appelle ça, il dit voilà, c'est Dieu tout seul qui est en robe de chambre, nous on doit l'interpréter. L'Ancien Testament, c'est la même chose. C'est quand même des passages qui ne sont pas très simples. Mais notre tâche à nous aujourd'hui, c'est un travail de réinterprétation. Et si on ne trouve pas la réinterprétation, on va disparaître, tout simplement. Moi je crois que les chrétiens sont à un tournant. En fait, les protestants, ils sont menacés de disparition aujourd'hui, ils ne se renouvellent pas. On est en très mauvais état. Il ne faut pas se tromper. L'état de nos églises est catastrophique. Et si on ne se renouvelle pas, on va disparaître ou on va se fondre dans une espèce de christianisme émotionnel sans intérêt. Mais donc, ce qui a fait justement toute l'originalité du calvinisme, c'est-à-dire quand même une certaine exigence de pensée, si on ne l'a plus, on disparaîtra. Ça, je suis convaincu. Donc aujourd'hui, on a des très grands défis devant nous et ça en fait partie. Ce sera mon dernier mot pour ce soir.
Thank you.